Ce soir, un message provocant, si on peut utiliser ce mot, provocateur, un message provocateur. On va prier, Seigneur, merci pour ce moment ensemble. On est là pour apprendre de toi, Seigneur. On est tous étudiant de ta parole et on va être toujours étudiant de ta parole jusqu'à l'éternité. Enseigne-nous, s'il te plaît. On est là avec les cœurs préparés, avec humilité, avec douceur, avec amour. Et merci de toucher nos cœurs, s'il te plaît. Merci de demeurer avec nous. Merci. Amen. Psaume 56, verset 2, verset 9. Je crois je vais tourner version d'Abbé, verset 8. Oui. Seconde, verset 9, d'Abbé, verset 8. Tu comptes mes allées et mes venues. Mets mes larmes dans tes vassaux. Ne sont-elles pas dans ton livre? Dans le Dabi, vassaux. Dans le second, outre. Donc ça c'est Psaume 56, verset 9. Verset 8. Prochain verset, juste pour donner une définition. Luc, chapitre 6, verset 45, et je vais lire le second. L'homme bon tire des bonnes choses, de bons trésors de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, juste pour donner quelques définitions, quelques choses pour l'introduction. On va parler ce soir de la doctrine des larmes. Des larmes. Donc, quand quelqu'un pleure, on voit les larmes. De l'âme, de le cœur, du cœur, la bouche parle. Donc un bon cœur, évidemment, on parle d'un cœur spirituel, le nouveau cœur. Les choses qui sortent sont bonnes, sont spirituelles. Du mauvais cœur, ancien cœur, nous avons application de Jérémie 17, 17 verset 5, que le cœur est tordu et méchant. Qui peut connaître le cœur? Non, ça c'est pas... Je vais tourner, c'est mieux d'être absolument sûr. Jérémie 17. Non. C'est verset 9. Le cœur est torturé par-dessus tout. Et les méchants, qui peut le connaître, le cœur? Donc le mauvais cœur, l'ancien cœur, est tellement capable d'être séduisant et de tromper la personne. Mais on va arriver maintenant de le sujet. On voit quelqu'un en train de pleurer. Et on voit les larmes. Mais le Seigneur David a dit, mes larmes dans le bouteille, le vaseau du Seigneur. Ça veut dire c'est l'âme de David sont précieuses parce qu'il parle de ça. S'il est une collection des larmes, ça veut dire les larmes pures, les larmes qui viennent de quelque chose. Pur, peut-être brisé, un cœur qui honore Dieu. Mais il y a plusieurs types de larmes. Et le premier, et je vais essayer de donner les versets précis, les références. Agar, Genèse chapitre 21, verset 16. Genèse chapitre 21, verset 16. Ok. Agar était mis dehors du camp par Abraham. Il est une dispute entre. Il était mis dehors. Elle était mis dehors. Et maintenant, elle est avec Ishmaël. Il est un garçon, un jeune garçon. Et elle est avec une bouteille de l'eau. Et il n'y a plus d'eau. C'est le désert. Elle amène le garçon. Ishmaël laisse lui une distance et elle retire de cette distance. Elle dit, je ne veux pas voir mon enfant. Je ne veux pas voir mon enfant meurt. Je ne peux pas voir. Donc, elle commence à lever la voix et de pleurer. C'est les larmes d'une maman pour son enfant. Elle est tellement touchée et c'est quelque chose partie de la condition humaine. Et donc, elle va voir un enfant, son enfant en train de mourir. Elle ne peut pas supporter ça. Elle va mourir aussi. Elle pleure devant Dieu. Et Dieu dit, j'entends de la voix de l'enfant. Donc, c'est les larmes de souffrance, d'anticipation de mourir. Elle souffre. Donc, avec cette tristesse, Dieu écoute et Dieu dit, je suis là. Parce qu'elle a crié, mais Dieu a dit, j'entends de ton enfant. Il a parlé, j'entends de lui. Donc, la bonne chose de ça est Dieu écoute et Dieu est compatissant. Il voit les larmes d'une maman et ce n'est pas en vain. Ce n'est pas un gaspillage. Combien de larmes dans ce monde? Combien de gens sont en train de pleurer dans ce monde? Est-ce que Dieu ignore ces choses? Non. Il est compatissant. Il voit le cri de prisonnières. Il voit le cri de ceux qui souffrent. Il voit ceux qui sont dans une prison. Il dit, je suis là. Je suis présent. Je suis touché. Donc, je me suis impliqué dans cette vie. Cette personne n'est pas seule. Agar n'était pas seule. Donc, quand elle a pleuré, Dieu voit les larmes d'Agar. Et donc, on peut savoir que quand on pleure, et c'est pour une bonne raison, que Dieu, il écoute et il voit. Deuxième, Ésaü, merci. J'ai toujours un problème avec ce nom. Ésaü. C'est un sujet très intéressant maintenant. Genèse chapitre 27. Genèse 27. Donc, Isaac veut donner la bénédiction. Et donc, le droit d'aînesse était déjà acheté, on peut dire, par Jacob. Ésaü, il n'a pas il a regardé ça comme quelque chose, il a méprisé, on peut dire ça. Pour lui, ce n'est pas important. Pour lui, il doit manger. Hébreux chapitre 11, et je crois en Romains chapitre... oui, je crois que c'est en Hébreux chapitre 12. Il est un homme profane. La profanité est le fait qu'il voit quelque chose qui est spirituel comme c'est ordinaire. Et lui, quand Jacob a volé la bénédiction en imitant Ésaü avec, voilà, avec une couverture de peau, avec le poil, etc., afin que Isaac a pensé que c'est son frère. Et donc, Ésaü arrive et il a vu que la bénédiction était déjà donnée. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à pleurer. Hébreux chapitre 12, verset 17 dit, il a cherché pour repentir, mais il n'est pas en place pour lui. Et la première chose qu'on peut dire, bah, il était en colère. Donc, c'est dit, les larmes de colère et les larmes de mon frère à me voler. Il a pris l'avantage, il était anaka, il a pris tout. Ce n'était pas la repentance, ce n'était pas une expression de repentance. Quand il a pleuré, c'est des larmes de pitié de soi en fait. C'était plutôt centré sur lui, c'était des larmes de colère, parce qu'il est un regret, oui, c'est un regret, mais... Ce n'est pas la repentance, et ce n'est même pas la repentance. On sait que la souffrance, une souffrance pure, amène à la repentance. C'est bien. Donc, quelqu'un qui souffre pour Dieu, bien sûr, pour être amené à la repentance, pour la disciple de Corinthiens. Mais ici, nous avons un homme qui était égoïste, un homme qui a cherché l'avantage. Il a regardé le droit d'aînesse, il a regardé la bénédiction et ce n'était pas important. Donc, lui, il a marché à côté de ça. Mais il y a quelque chose de plus parce qu'on pense qu'avec Jacob, il a volé. Donc, la façon dont il a fait, ce n'était pas correct, on peut dire ça. Mais en fait, pour Ésaü, ça va être la même situation si Jacob l'a fait ou pas. Pourquoi? Parce qu'avec Joseph, quand Jacob était là, presque aveugle avec Ephraim et Manasseh, il a changé la main. Ils ont posé la main comme ça pour donner la bénédiction à le jeune, à la le fils cadet. Donc, en tout cas, Ésaü va perdre cette bénédiction parce qu'il était un homme profane. Donc, il a cherché avec les larmes, partout. Mais Dieu a dit, ce n'était pas pour toi et tu peux pleurer tout ce que tu veux. Ça ne va pas changer mon cœur. C'est important de savoir, des fois, on peut être devant quelqu'un. Et cette personne est en train de pleurer. Mais quel cœur est exprimé? Est-ce que c'est le cœur de Dieu ou est-ce que c'est le cœur d'enfer? Est-ce que c'est le cœur, ancien cœur, le cœur qui est maudit? Est-ce que j'exprime ça? Et des fois, dans le sens de conseil avec quelqu'un. Quand on voit quelqu'un pleurer, on peut toujours être compatissant. Mais est-ce qu'ils sont frais? Parce que j'ai aucune sympathie et Dieu n'a aucune compassion pour quelqu'un marionnette qui exprime comme Ésaü a fait. Pleurer, 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 mais c'était une gaspillage de l'âme et un gaspillage de temps. Parce que la bénédiction était donnée à Jacob. Est-ce que Jacob était Anaka? Oui. Mais est-ce que Jacob était choisi par Dieu en avance pour être le fils qui va hériter de la bénédiction et de le droit d'aînesse? Oui. Et Ézor, lui, un homme profane. On dit profanité en anglais, et je pense en français, c'est des gens disent les profanités et on parle de les paroles qui sortent de la bouche. C'est pas la parole qui compte, c'est le cœur. Quelqu'un qui méprise quelque chose de spirituel est profane. C'est une personne profane. C'est pas une question d'un acte profane, c'est vient d'un cœur qui est profane. Et ça, c'est le deuxième type de l'âme. Le prochain, et je vais entrer dans un domaine qui est un peu plus lourd. Donc, on va arriver de quelque chose d'édifiant, mais on va passer par des choses qui sont instructives, informatives, importantes, pertinentes. Tamar, 2 Samuel chapitre 13. Tamar est la fille de David. David, elle est une grande famille. Plusieurs femmes. C'est évident. La Bible ne dit pas directement, il y a certaines instructions, mais la Bible ne dit pas dans le cas de David, mais c'est évident qu'on voit qu'il a marié plusieurs femmes et il a des concubines. Seulement après ça, on peut voir les résultats. C'est déjà compliqué dans cette vie d'être célibataire. C'est compliqué d'être marié. Pour un homme d'être marié avec une femme, c'est une grande responsabilité, c'est pas petit. On est tous appelés célibataires, mariés, divorcés, un jeune, un enfant, on est tous appelés de marcher devant Dieu. Tamar, on va retourner là. Tamar, donc, c'est une catastrophe, on peut simplement dire, de voir les résultats de David et les décisions qu'il a prises dans ce domaine. Parce qu'après, on voit Absalom et tout ce qui est passé avec lui, Amon, qui était son demi-frère, et le meurtre d'Amon. Et Tamar, une femme, quand je lis ça, c'est juste wow. Elle était violée par son propre demi-frère. Et en 2 Samuel chapitre 13, verset 19, après le viol, elle a averti, elle a dit clairement à son demi-frère Amon, il est insensé de faire ça, ne fais pas ça, parle avec David, tu peux pas faire ça, parce qu'elle était vierge. Vierge ou virgin? Virgin? Vierge. Elle était vierge. Donc pour une femme vierge en Israël, vierge, merci, vierge. Donc pour une femme vierge en Israël, si elle perd sa virginité à cause de quelque chose comme ça, qui va marier cette femme? Elle voit tout. Donc pour elle, après cet acte abominable, c'est wow. Elle était mise dehors par son demi-frère et elle a pleuré. Et c'était dit qu'elle restait dans la maison d'Absalom. Elle était désolée. Donc elle était déprimée. Elle était en désolation. Donc imagine cette femme en train de sortir de la maison, en train de pleurer. Est-ce que Dieu aime et est compatissant de cette femme? Oui, absolument. Combien de femmes sont violées dans le monde de ce moment, dans les situations horribles? Et est-ce que Dieu a un cœur? Est-ce qu'il veut que la personne qui est responsable pour ça est tellement responsable et va être devant Dieu? c'est clair. La justice soit faite. La justice soit faite. Mais quelle est la responsabilité? Bien sûr, le conseil, aide, quelqu'un qui peut accompagner. Je ne suis pas du tout expert. Je ne peux pas parler avec une certaine authority dans ce domaine. Donc, je suis clair avec ça. Mais elle était fermée, enfermée maintenant, en train de pleurer. Elle était déprimée, elle était triste, elle était cassée, humiliée. C'est des larmes de humiliation. J'ai un moins de valeur dans ma vie à cause de cet acte par un homme qui a fait une chose, à cause de sa convoitise, qui n'a aucune conscience. Quand le raison logique est présenté, tu ne peux pas faire non, il a écrasé tous pour entrer. Et c'est pour dire que Dieu est là et il aime cette femme. Et il y a beaucoup de choses on peut apprendre de cette histoire et c'est tellement tragique. Mais de voir qu'elle est fermée dans sa vie, et est-ce que Dieu est à côté? Est-ce que Dieu aime? Est-ce qu'il est là pour aider? Est-ce qu'il dit « tourne vers moi, cherche ma face » Ce n'est pas la fin. Ta valeur est toujours là. Tu es violé dans ta vie, mais tu as une valeur devant Dieu. Et c'est le même si un homme est violé, et ça c'est des choses qui passent aussi. Le sens de manque de respect, de dignité à cause de quelqu'un qui a fait quelque chose horrible comme ça. Et le Seigneur dit, pour moi tu as valeur. Tu as dignité, tu es décrit dans l'image de Dieu, tu marches avec moi, fais confiance en moi, laisse pas quelqu'un qui a fait un acte en 10 minutes de réduire ta vie à rien. Tu es quelqu'un avec une vie, c'est un moment dans ta vie et les choses horribles et injustes passent dans ce monde, mais c'est pas la fin de ta vie. Je suis là, fais confiance en moi. Rien dit plus de Tamar à sa vie. Mais je pense que le Seigneur, son cœur était tellement pour elle. Donc les larmes, s'il voit les larmes, c'est précieux pour lui parce qu'il a dit, c'est quelque chose avec la souffrance et l'humilité. C'est pas fake, c'est pas faux, c'est vrai, tu souffres. Et maintenant, qu'est-ce que ça t'amène vers moi? Tourne vers moi. Donc, Tamar, souffrance. Après, nous avons, je vais tourner vers quelque chose de plus édifiant. Joseph, Genèse chapitre 45, c'est une belle histoire. Wow, Genèse chapitre 45. Donc, Joseph, il a vu ses frères et il a dit, OK, on va mettre les Égyptiens dehors. Je ne peux pas me supporter, je ne peux pas retenir en moi-même, je ne peux pas garder les émotions parce que je vois mes frères et je vois Benjamin. Et je vois mes frères, je pense, wow, toutes ces années, je suis en Égypte et mes frères, ils m'ont laissé tomber et mon père pense que je suis mort. Il a pleuré, il a dit, je suis ton frère Joseph. Il a pleuré, pleuré. C'est un moment de, après une séparation, c'est un moment de joie, je suis là. Mais les émotions, on est compliqué. On est tellement, on est fait merveilleusement par le Seigneur, mais on est compliqué dans nos émotions. Il y a un passage de temps, comme pour le deuil, il y a un passage de temps pour Joseph d'arriver, d'exprimer, parce qu'il ne peut pas juste dire « Bonjour, mes frères, comment allez-vous ?» Non, il embrasse, il pleure. C'est un voyage des émotions. Et lui, il a gardé ça en lui pour des années. Et quand il a vu ses frères, il a fait cette impression qu'il était un Égyptien. Il n'a pas du tout révélé qui est lui vraiment. Et maintenant, cette joie, Imagine le moment on est réuni avec quelqu'un qu'on aime. Oh, plus, c'est plus compliqué de ça. Les dernières choses et sa visage choqué de la trahison de ses frères. Et il était sur un chameau peut-être, en train de pâter en Égypte avec les Midianites. Et lui, en train de regarder ses frères, et ses frères, ils ont fait ça. Et lui, un regard d'horreur peut-être. Aide-moi, mais personne aide. C'est ses propres frères. C'est ses frères, en fait. Et lui, et après 13 ans maintenant, il est devant. Il avait 17 ans quand il était pris d'Égypte, en Égypte. Il avait 30 ans quand il était devant Pharaon. Donc, voilà, on fait le maths, c'est 13 ans. Pardon? Oui. Donc, lui, c'était... Donc, en fait, oui, en bref, il était, après toutes ces années, il avait ses frères en train de pleurer. Je suis content de vous voir. Et eux, ils sont étonnés de voir cet homme parce que son visage changé après tout ce temps. On a vu des gens depuis 2 ans qu'on n'a pas vu avec ce COVID. On a tout changé un peu, mais 13 ans. Wow, tu regardes cet homme et... Mais il a changé parce qu'il est comme un Égyptien maintenant. Donc, il n'est pas le même jeune de 17 ans qu'on a vu la dernière fois dans les situations tragiques et horribles qu'on a fait cet acte. Les larmes pures, les larmes, c'est une expression. Un homme peut pleurer. C'est dans la Bible, on voit les exemples. On est dans une société qu'on est tellement... On, dans les îles britanniques, on est comme ça, on est stoïque. Je pense dans les pays scandinaves aussi, c'est tellement... Les finlandaises aussi, les hommes de Finlande, probablement le même, on est sérieux, mais en train de rigoler aussi en même temps. Donc, pas beaucoup d'émotions exprimées. Et dans ma maison aussi, dans ma famille, on était des fois on est un peu anglais, donc on fait des choses avec le stiff upper lip. On n'exprime pas des émotions. Mais un homme peut pleurer. Exactement. C'était tellement fort. Il a juste, waouh, il a ouvert tous. Et c'était comme un déluge. Et c'était bien. Il n'a pas gardé ça. Il a exprimé. C'était nécessaire pour lui. Donc, Joseph. Prochain, Apocalypse 18, c'est les larmes des opportunités de gagner l'argent perdu. Je ne sais pas comment on va dire ça, mais l'argent. Donc, les marchands de Babylone. Apocalypse 18, verset 11. Donc, d'une distance, après Babylone en train de juger par Dieu, le feu descend, la ville brûle et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus les cargaisons, le merchandise. C'est super, hein? C'est horrible. Ils sont en train de pleurer à distance. Pourquoi? Parce qu'ils aiment l'argent, ils voient les gens, mais ils voient ding ding les dollar signs, ils voient l'argent, ils voient un homme ou une femme et tout ce qu'ils voient, opportunité de vendre quelque chose. Donc ils voient dans Babylone, en Apocalypse, dans la grande tribulation, c'est des choses horribles qui passent. Parce qu'en fait, quelle est la marchandise? Les esclaves aussi. C'est pas juste dans les versets suivants, versets 12 et versets 13, on va pas lire ça, mais voilà, la chose qui est dit en fait, les corps et les âmes, les souls, les âmes des hommes en fait. Je n'arrive pas d'exprimer, mais voilà, ils vendent les gens, c'est des esclaves. Donc, comment une froideur de ces hommes de vendre quelque chose et voir que c'est une personne derrière. Mais non, on voit juste l'argent. Et il pleut maintenant à cause de le fait qu'il pense qu'on ne va pas être plus riche. Wow! Que les larmes de quoi? Entrée de soi, entrée personnelle. Je suis personnellement impliqué. Et il pleure de distance. Ça veut dire en train de voir la ville brûler. Ils ne sont pas en train de retourner à la ville de chercher si quelqu'un est toujours en vie pour aider. Non, on voit tout ça. Oh. Mince, tous les millions perdus pour les prochains 10 ans. Comment des fois on est des gens, on a l'impression de des gens qui sont intéressés. Oh, il ouvre la porte de le magasin, on entre, on est traité comme on est les rois et les reines, mais est-ce qu'ils sont intéressés que nous sommes un homme ou une femme, que nous avons un cœur, qu'on souffre, qu'on passe par des moments bien et pas bien? Non, c'est juste, je cherche l'argent. Je veux le. Quelle est l'expression? The money. Le sou. Je cherche le sou. Donne-moi le sou. Les sous, donne-moi les sous. C'est ça. Gratte le main. C'est ça. Honnêtement. Est-ce qu'on doit travailler? Oui. Est-ce que chacun gagne l'argent? Oui. Ce n'est pas une parole de condamnation parce qu'on travaille. Et on doit travailler. Et on est des vendeurs. On est des vendeurs chrétiens. On est des hommes de fer, des femmes de fer chrétiens qui travaillent. Non, ce n'est pas ça, c'est la question de cœur. Est-ce que c'est un cœur qui adore l'accumulation de l'argent, la bonne de l'argent? Ça, c'est la clé. Et ces hommes pleurent, mais c'est rien, c'est juste pour l'argent. Ils ne sont pas intéressés de voir les gens en train de mourir. Donc, ça, c'est les marchands de Babylone, point numéro 5. Point numéro 6. Oh, wow. On va passer ça vite parce que ça, c'est pas... OK. Enfer. Luc, chapitre 13, verset 28. Luc 13, 28. On va pas rester très long avec ça parce que... Il y a une expression. Les grincements de dents et les pleurs. Cette expression est utilisée 7 fois dans le Nouveau Testament. Le grincement de dents est utilisé aussi en Actes chapitre 7 par les Sanhédrins en train de grincer les dents avec tellement de colère contre Étienne. Ça veut dire il ne peut pas supporter cette colère inexprimable en enfer. Enfer est un puits et c'est un abîme sans fond. Donc les gens tombent et continuent de tomber et continuent de tomber et continuent de tomber. C'est jamais, jamais finir. Mais avec une crainte qu'ils vont arriver finalement d'être écrasés au fond. Donc c'est toujours cette attente. Enfer est seul, mais aussi d'être en souffrance parce que Dieu amène un jugement. Donc c'est tellement un sujet qu'on ne peut pas traiter légèrement. Et je ne veux pas entrer dans ce sujet en profondeur. On n'a pas le temps. Mais quelqu'un, imagine, on est en enfer maintenant. On est seul, on va être seul pour l'éternité. On est détaché de la présence de Dieu pour l'éternité. On a perdu des opportunités. On est complètement seul. On est en colère. On est un corps qui n'est pas glorifié. On est physiquement un corps qui souffre. Chaque fibre de mon corps souffre. Je ne peux pas exprimer la colère, donc je grince les dents. Donc, je suis en colère contre moi-même. Il y a une haine contre moi-même, mais une haine contre Dieu. Je ne peux pas supporter la présence de Dieu. Et je pleure. Je pleure sans cesse. Et c'est les larmes de colère. Donc, j'ai vu quelqu'un en train de pleurer avec une telle colère. J'ai travaillé avec un collègue et cette personne a pleuré et c'était une colère. C'était pas tristesse, c'était tellement la colère. Et waouh, des fois, on voit des enfants qui font ça aussi. Des enfants, ils pleurent, mais c'est frustration que je ne peux pas imaginer que c'est un adulte. Imagine qu'une âme peut faire ça. Imagine un pécheur qui arrive jusqu'au bout de sa vie, enfermé en soi-même et en colère. Il dit, je ne veux pas changer, je déteste Dieu, je ne veux pas voir ce Jésus et entrer en enfer, et maintenant le sentence est finalisée, c'est fini, et cette personne, il n'a pas sorti. Sans sorti, l'expression c'était, Jean-Paul Sartre, huis clos, c'est aucune sortie. Ce livre, c'est horrible en fait, c'est un jeu de théâtre en fait, j'ai lu, c'est Jean-Paul Sartre, il ne connaît rien, voilà. Mais voilà, en bref. Non, il était. Je ne vais pas entrer avec lui de discuter. Brisement, ça c'est bon. Est-ce que je continue? Vous n'êtes pas trop déprimé par tous ces. les larmes de brisement. Paul, brisé. Pour les perdants, en Philippiens chapitre 3, verset 18. Philippiens 3, 18. Il voit les gens perdus. Il est dit car il y en a, qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Et je vous en ai souvent parlé et j'en parlais maintenant encore en pleurant. Il n'était pas supérieur. Il n'était pas orgueilleux. Il n'a pas pensé, voilà, moi, je suis mieux que eux. Regarde eux. Non. Il a dit, il est tellement triste de voir ces gens qui sont des ennemis de Dieu. Parce que pour lui, la prochaine chose qui suit, en Romains chapitre 9, il a dit, j'ai une telle lourdeur et tristesse dans mon cœur. Je vois mes compatriotes. Les Juifs, ils ont un zèle, mais ce n'est pas un zèle avec connaissance. Et je vais faire un échange avec Dieu entre moi et eux, afin que moi, je vais entrer en enfer et rester là, et eux, ils peuvent entrer dans la vie et accepter Christ. Il a dit, si c'était possible, et ce n'est pas possible, mais c'est mon cœur, je voudrais faire ça. Il veut changer ça et il est en train de pleurer. Il dit, c'est des gens qui font des mal à eux-mêmes. Ils sont des ennemis contre le quoi. Et un chrétien peut être contre le quoi aussi. Quelqu'un qui peut résister. Combien de chrétiens peuvent dire, oh, je déteste l'Église, je suis pas intéressé, j'étais blessé, ça et ça. Et maintenant, ils marchent sans un quoi. Donc, ils sont des ennemis de la croix de Jésus. Ils sont aussi l'ennemi expérimentalement, pas dans la position, mais expérimentalement, ils sont ennemis de l'Église, ils sont ennemis de Jésus-Christ. Parce qu'ils marchent comme quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui est un païen, quelqu'un qui est dans ce monde, quelqu'un qui marche dans le train de ce monde. Donc c'est comme si cette personne n'était jamais sauvée. Et donc Paul est en train de pleurer, c'est un brisement. Ce n'est pas une supériorité, je suis mieux et regarde-moi, je suis mieux. Non, non, c'est moi, j'étais dans cette situation avant. Je sais, j'ai fait tout pour maudire l'Église. J'étais contre l'Église, j'ai torturé les gens, j'ai amené les gens en prison. J'ai fait tout ce que je peux. Il est brisé. Lui, je pense, il a un appel exceptionnel de vivre cette chose. Donc, il était brisé pour les gens. Et voir un homme, je crois qu'il était un pasteur ou un auteur chrétien. Une fois, il était dans un repas avec des amis et quelqu'un a posé la question, pensant qu'il va donner une réponse compréhensive, doctrinale et tout. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les perdus? Il a juste pleuré. Il a dit, on doit le faire. Il n'a pas donné une liste. Il n'a pas donné une liste de choses. Il n'a pas donné une réponse intelligente. Il a dit, il faut que je... Il ne peut pas dire plus. Il ne peut pas exprimer parce que c'est son cœur brisé. Souvent, on est très intelligent. On a des doctrines, point A, point B. Mais des fois, on est juste, au secours, Seigneur, aide-les, s'il te plaît. Aide-nous. Brisement. Et c'est beau. Quelqu'un qui pleure avec les larmes de brisement. C'est vrai, et Dieu voit ça, il a dit, c'est magnifique. Quelle est la vraie beauté dans ce monde? Un homme ou une femme humiliée pour Dieu, qui brise, brisée pour Dieu. Pas orgueilleux, pas la beauté, on voit la beauté. On voit la beauté de ce monde. Et juste une parenthèse sur ça. Voir quelque chose, on ne peut pas ignorer les choses dans ce monde. Les images partout, le YouTube et les films. Et toujours, c'est des hommes et des femmes. Et ils sont tellement comme ça. Dans un commercial, une publicité de 5 secondes, c'est l'homme, il est parfait. Comme ça, il a un six-pack. La femme est comme ça. Le cheveu bien coiffé. Pardon. Le cheveu, elle a des cheveux aussi. Le cheveu bien coiffé. Et les gens pensent, waouh. Et ils pensent, ça c'est la beauté. Non, c'est pas la beauté. Tu vois, ça, après la personne a passé une nuit blanche, les yeux comme ça, et ils sont comme ça, il arrive au frigo, il ne peut pas bouger, ils sont comme un zombie. Voir les belles et les beaux en Hollywood, je pense, après ils ont pris quelque chose, on pense, oui, voilà, le make-up c'est bon, le cosmétique c'est bon, mais enlève tout ça, enlève, voilà, voir ça, et tu vois, c'est, mais quel est beau, quel est belle pour le Seigneur, c'est quelqu'un brisé, c'est quelqu'un qui tremble pour sa parole, qui tremble, qui est qui a un respect pour lui, quelqu'un qui brûle pour le Seigneur. Ça, Jérémie était un homme beau, Joseph était un homme beau, Daniel est un homme beau. Pourquoi? Parce que c'est des hommes forts. Esther, ça c'est une femme courageuse. Ruth, elle est une femme avec conviction. La Bible parle des femmes avec respect. C'est les fondamentalistes, c'est les fous dans ce monde qui disent « Ah, la religion fondamentale écrase les femmes. » Connais rien. C'est les bêtises. Brisement. Je pense que je vais finir parce que j'ai quelques autres points, mais je ne peux pas continuer. C'est beaucoup. La fin, on a parlé d'enfer, on a parlé de ces gens qui finissent leur vie en pleurant avec colère. Mais ce n'est pas noté, mais je pense que le moment qu'on a enlevé, le moment qu'on est pris et on est avec le Seigneur, on va pleurer, je pense, on va voir les gens qu'on n'a pas vus depuis des années. Et les gens qui viennent et disent, écoute, tu as changé ma vie. Une parole. Tu m'as croisé en Stockholm, tu m'as croisé à Genève, tu m'as croisé à Londres ou à Baltimore. Tu as dit un mot et ma vie était changée. Jésus-Christ est dans mon cœur. Merci. Et on va voir les gens comme ça et on va pleurer avec la joie parce qu'on dit finalement, Seigneur, on est là et on est dans un convention, une conférence internationale, globale, au ciel et on va être tous ensemble pour l'éternité. Aucun ancien nature pécheresse, aucune hypocrisie, aucune injustice, aucun péché, aucun mal, aucune horreur, aucune abomination. Et je pense qu'on va dire Amen, Seigneur. Et on va pleurer avec joie quand on voit ça. Parce que des fois, on pleure ici, on pleure en adorant le Seigneur. Ce n'est pas les larmes de tristesse, c'est les larmes de brisement, c'est les larmes de joie dans sa présence. On tremble et on imaginons comment ça va être. Ce n'est pas noté, mais je pense, dans mon avis personnel, on va expérimenter ça. Et je pense qu'il a ramassé, il a pris toutes les larmes de ce type. Ils sont dans les vases. Et donc, juste pour dire, il y a plusieurs types de larmes. Plusieurs types. Mais Dieu, il ne méprise pas les humbles. Il ne méprise pas ceux qui sont humiliés. Il ne méprise pas les tristesses. Une femme ou un homme en deuil avec un enfant, il perd un enfant. Un enfant qui perd son père ou sa mère à séparation. Les dernières choses, Paul a dit, je veux voir ma face pas sur la terre, en Actes chapitre 19. Et les gens en train de pleurer avec séparation. C'était honnête, c'est une expression. On n'a pas besoin d'être stoïque. On n'a pas besoin d'être des hommes et des femmes qui gardent nos émotions. Au même temps, on n'est pas là de manipuler nos émotions pour susciter la compassion des autres. On est juste appelé de marcher devant le Dieu, le Seigneur, et de marcher avec nos frères et sœurs et de vivre nos vies. Et c'est une expression, c'est une partie de la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.